Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Des réactions affluent après la signature vendredi à Washington de la déclaration de principe entre la RDC et le Rwanda. Parmi elles, la mission onusienne. La MONUSCO salue les faits et s'est dit prête à soutenir les efforts de mise en œuvre, notamment en matière de protection des civils et de consolidation de la paix. 6 militaires des FARDC tués, un blessé, un chinois enlevé et des armes à feu emportées. Bilan de l'attaque armée survenue hier à l'endroit appelé Kipori, non loin de Kalemi. Le convoi en provenance de Kabimba pour Kalemi est tombé dans une embuscade tendue par des coupeurs de route. Et puis, l'invitée de ce midi, Madame Marguerite Niki Imayonda, point focal intérimaire de l'Union des écrivains du Congo, section Tchopo. Elle nous parle des difficultés qu'éprouvent les écrivains de la Tchopo depuis quelques années et comment redynamiser leurs activités. Madame, Messieurs, bonjour. La MONUSCO salue la signature de la déclaration de principe entre les gouvernements de la RDC et du Rwanda, signature intervenue vendredi 25 avril à Washington sous les auspices du département d'État américain. Dans un communiqué publié samedi, la MONUSCO dit relever l'engagement des participants à soutenir la mission dans l'accomplissement de son mandat, notamment la protection des populations civiles et la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. La mission prend note également de la volonté des participants à protéger, faciliter et promouvoir sa capacité d'action ainsi que celle des forces et mécanismes régionaux agissant conformément à leur mandat. Plus de détails avec vous, Alain Rungmushinji.
La signature de cette déclaration traduit une volonté de consolider les avancées obtenues grâce aux efforts antérieurs et d'ouvrir la voie à un renforcement de la coopération. La MONUSCO demeure prête à soutenir les efforts de mise en œuvre, notamment en matière de protection des civils et de consolidation de la paix, a déclaré Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef par intérim de la MONUSCO. Cette déclaration de principe constitue une étape importante en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable dans l'est de la RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. La MONUSCO se félicite de voir les parties s'appuyer sur les avancées obtenues lors des initiatives précédentes, notamment le processus de Luanda et les efforts de médiation menés par le président angolais João Lourenço sous l'égide de l'Union africaine. La MONUSCO se félicite des principes affirmés par les deux pays, notamment le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le règlement pacifique des différends et la volonté de s'abstenir de toute ingérence dans les affaires internes. La mission salue également la décision des deux pays à lutter conjointement contre la prolifération des groupes armés non étatiques et à promouvoir un cadre d'intégration économique régionale transparent au bénéfice des populations.
Pendant ce temps, au sud Kivu, la chefferie de Kaziba, dans le territoire de Walungu, est secouée par la guerre depuis hier soir. Des tirs nourris ont poussé les habitants de Kaziba centre à fuir vers les montagnes où ils ont passé une nuit blanche. La FCM-23 tente de déloger les Wazalendo pour obtenir l'accès au haut plateau de Minembwe où sont cantonnés ses alliés Twiraneo, Android et Gumino. En même temps, la FCM-23 renforce ses troupes en hommes et munitions dans les territoires de Kabare et Kale. Les habitants témoignent avoir vu ce dimanche 27 avril 5 camions pleins de militaires débarquer dans les localités Tchofi et Kacheke. Certains ont même emprunté le lac Kivu à bord des canaux rapides en provenance du Rwanda, selon les témoins dans la région. Des détails avec vous, Alain Rungmushinji.
Les combats hier à Kaziba ont commencé à 17h lorsque la FCM-23 a lancé un assaut sur le chef-lieu de cette chefferie à partir des collines en face. Les Wazalendo avec les FARDC ont riposté. Des tirs se sont généralisés plongeant la population dans une angoisse. Les habitants qui avaient encore le courage de sortir de leur maison ont pris la direction des montagnes pour se mettre à l'abri des balles perdues. La situation est redevenue relativement calme ce dimanche matin, même si l'ambition de la FCM-23 reste celui de s'accaparer Paris de Kaziba pour leur permettre de communiquer directement avec les groupes Twiranero, Gumino, Android coincé dans les hauts plateaux de Minembwe après avoir prêté allégeance au M23 soutenu par le Rwanda, affirment nos sources. En dehors de Kaziba, dans Walungu, l'AFC M23 renforce simultanément ses troupes dans les territoires de Kabari et Calais ce dimanche 27 avril. Les témoins sur place ont aperçu des camions chargés d'hommes en uniforme M23 débarquer massivement à Tchofi et Kacheke. Tout près de là, précisément à Irambikatana, il y a eu des violents combats samedi opposant les rebelles au Azalendo. Nos sources renseignent que les rebelles ont été délogés des montagnes de Kabushwa et Kaungu et ils se sont dirigés vers l'aéroport de Kavumu avant de revenir avec force ce dimanche sur les champs de bataille.
Sud Kivu toujours, nous apprenons qu'un pillage systématique et organisé s'est opéré vendredi dans les installations de l'antenne de la CENI et de l'ANER au chef-lieu du territoire de Walungu, dans la chefferie de Ngweche. Nos sources sur place confirment qu'un camion sous supervision M23 a chargé tous les effets vers une destination inconnue. La concession d'un particulier officier militaire de son état et commandant de la garde républicaine a subi le même sort. Du côté de l'Ituri, une accalmie générale s'observe dans le territoire de Djougou. Depuis quelque temps, plusieurs activités ont repris dans la région de Fataki, jadis théâtre d'affrontements et des attaques de la milice Codeco contre les populations civiles. La société civile territoriale qui la rapporte espère à une paix durable avec l'intervention de l'armée ougandaise UPDF. Dans une déclaration faite hier devant la presse, le député provincial Joseph Aïlé, qui espère la même chose, appelle à la levée de l'état de siège qui, selon lui, n'a pas su imposer la paix en Ituri 4 ans durant. Détail avec vous, Sadiki Aboubakar.
Cette accalmie s'observe dans le territoire de Djougou et c'est là depuis l'arrivée des troupes de l'armée ougandaise UPDF dans la région. Jules Touba, président de la société civile Force Vive du territoire de Djougou, parle même de la reprise des activités dans la région de Fataki.
Les églises ont déjà ouvert les activités, les prêtres sont revenus, le marché a repris à moitié. Il y a aussi l'hôpital qui a repris les activités des soins, sauf les activités scolaires. Ça fait déjà 2 mois et demi depuis que les écoles avaient fermé. Les élèves étaient dispersés, d'autres élèves étaient tués, les enseignants ont fui.
De ces faits, le député provincial Joseph Aïlé espère voir le retour de la paix dans Djougou avec la présence de la force ougandaise. Alors, au cours d'un point de presse animé samedi à Arou, il demande au chef de l'État de lever carrément l'état de siège.
Malgré 4 ans de l'état de siège, on n'a pas recouvré la paix dans le Djougou, jusqu'à ce que le chef de l'État ait fait recours à l'armée d'un pays voisin.
Et tout le monde le sait, avec le concours de l'armée ougandaise, l'UPDF, l'espoir est permis.
Signalons que l'intervention de l'armée ougandaise en Ituri est apprécié différemment par différentes couches sociales et politiques. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Direction la province du Tanganyika. Je vous l'ai dit dans les titres. 6 militaires des FARDC tués, 1 blessé, 1 ressortissant chinois enlevé et des armes à feu emportées. C'est le bilan de l'attaque armée survenue hier samedi dans le territoire de Kalemie. D'après des sources sur place, l'incident est survenu sur l'axe Kalemie-Kabimba à l'endroit dénommé Kipori, à une 40aine de kilomètres de Kalemie. Le convoi est tombé dans une embuscade tendue par des coupeurs de route. Paulin Munanga nous raconte.
Des sources rapportent que l'incident s'est produit vers 10 heures locales. Les convois en provenance de la cité de Kabimba se rendaient dans la ville de Kalemie. Des bandits armés ont attaqué les véhicules et tué sur place 5 militaires qui escortaient les convois et 1 militaire qui a été blessé et décédé par la suite. Ils ont en outre blessé le chauffeur qui est dépêché dans une structure médicale et kidnappé un chinois de la cimenterie GLC, rapportent les mêmes sources. L'administrateur du territoire de Kalemie condamne cet acte. John Mutombo.
Nous venons de perdre encore une fois de plus des militaires qui accompagnaient le cortège des Chinois pour Kalemie. Il y a eu une embuscade qui a été tendue au niveau de Kipori. Malheureusement, vraiment, c'est l'acte que nous condamnons avec beaucoup de fermeté. Perdre comme ça nos éléments FARDC, vraiment, ça me fait très mal.
Pour rappel, le kidnapping des Chinois est monnaie courante sur l'axe Kalemie-Kabimba. En 2024, 4 militaires de la force navale qui escortaient les Chinois ont été tués par des coupeurs de route et 4 Chinois de la société GLC kidnappés sur les mêmes axes. Leur libération a été conditionnée par le paiement d'une forte rançon.
Restons dans le territoire de Kalemie pour signaler le retour au calme hier au village Tembwe. C'est après une incursion d'une milice présumée Toa. D'après des témoins, les miliciens ont attaqué le village pour venger la mort d'un des leurs qui aurait été tué au moment où il vendait la braise dans un camp de pêche. Cet incident a poussé les habitants à abandonner précipitamment le camp de pêche dans un mouvement de panique, soulignent les mêmes sources. L'administrateur du territoire de Kalemie annonce qu'il n'y a eu ni décès ni maison incendiée lors de cette incursion. Sud Kivu, le président provincial de la NAPECO, Association nationale des parents et élèves du Congo, apaise les parents et les élèves finalistes affolés par ce qu'il appelle des fausses informations distillées sur les réseaux sociaux, informations concernant les frais de participation aux épreuves de l'examen d'État 2024-2025 en hausse pour le Sud Kivu. Mouloumé Oderoa rassure que ces frais n'ont pas encore été fixés ni publiés pour la province éducationnelle. Ainsi, il invite l'opinion à n'y pas s'agiter car, dit-il, le Sud Kivu est une province sinistrée par la guerre au même titre que le Nord Kivu et donc les deux provinces ont un traitement particulier de la part des autorités en charge de l'éducation. Mouloumé Oderoa Batandi précise que les pourparlers sont en cours entre Kinshasa et les provinces éducationnelles en vue de trouver un compromis autour de ces frais. On écoute le président provincial de la NAPECO.
Dans notre province éducationnelle, on n'a jamais fixé les frais de l'examen d'État. Puisque nous siégeons au niveau du comité provincial de l'examen d'État, mais on n'a jamais fixé cet argent. Et donc, c'est un problème des réseaux sociaux. On ne sait pas là où on a tiré cette fiche. Mais je veux préciser que nous, comme membres du comité provincial, nous sommes en pourparlers avec Kinshasa pour demander qu'on soit aussi exonéré comme nos frères du Nord Kivu pour l'année passée. On a introduit la requête au niveau de Kinshasa. Le parent qui manque même comment payer les frais scolaires des enfants, nous sommes en train d'attendre que Kinshasa puisse répondre. C'est pourquoi je demande à tous les parents du Sud Kivu d'être patients.
Une cinquantaine des journalistes de Bounia et sa périphérie ont clôturé vendredi une formation de 3 jours sur l'écriture journalistique dans le domaine de la santé. Il s'agit d'une formation organisée par Radio Kapi en partenariat avec l'UNICEF. L'objectif est de renforcer les capacités des participants en matière de communication autour des questions liées à la santé, particulièrement la vaccination, souvent victime de la désinformation au sein des communautés. Le compte-rendu de Sadiq Yaboubakar.
Ce qu'on dit d'abord, en étant une femme, on t'a violée sexuellement. C'est comme si on t'a déjà détruit.
Il s'agit là d'un extrait des retransmissions des reportages réalisés par des journalistes qui viennent de boucler une formation de 72 heures sur l'écriture journalistique et le traitement des informations liées au domaine de la santé, dont la vaccination. Marcus Jean-Loïka, correspondant de Biwan, revient sur les notions apprises.
Cette formation nous a aidé beaucoup plus à améliorer notre écriture, du traitement, des récoltes, des données liées à un sujet qui concerne ou qui touche à la santé.
Cependant, les journalistes ont souvent du mal à trouver des personnes et ressources, notamment dans le domaine de la santé. C'est ce que déplore Papi Kongolo de la radio Tempête du Lac de Kassény.
Nous avons un accès difficile à des sources d'informations, surtout à des informations qui sont liées à la santé. Des fois, je peux composer peut-être des questions, mais j'en vais au médecin, chef de zone. Donc, si vous cherchez à passer cette information dans les diligences, donc dans ces cas, les fonctionnaires doivent passer, mais toujours attendre de sa disponibilité.
Mais malgré ces quelques obstacles à une bonne communication autour de questions de santé, les participants ont unanimement reconnu la pertinence de cette formation qui, selon certains, va leur permettre de faire mieux qu'avant pour aider à sauver des vies. Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Kapi.
Par ailleurs, les journalistes de la Tchopo, eux, renforcent les capacités ce week-end à Kisangani sur le code du numérique. C'est une initiative de Gaston David Mukendi, reporter de KIS 24, un média en ligne opérationnel à Kisangani, et ce, grâce à l'appui de l'Agence française de développement des médias. C'est un reportage de Jacques Mukonkole.
Cet atelier a consisté à informer, former et protéger la jeunesse contre la désinformation due aux fausses nouvelles, aux images générées par l'intelligence artificielle, ainsi que beaucoup d'autres informations invérifiables. Gaston David Mukendi.
Tout ce que nous avons voulu, c'est de permettre aux participants, notamment les journalistes, les juristes, les blogueurs et les étudiants en sciences de l'information et de la communication, d'être capables de se protéger. Et cette autoprotection consiste d'abord au respect des textes qui régissent l'espace numérique en République démocratique du Congo.
La RDC est dotée de la loi sur le numérique depuis l'an 2023. Ce cadre juridique institue les droits et obligations et la violation de ces dernières expose les journalistes et autres utilisateurs des réseaux sociaux aux poursuites judiciaires. Cependant, déclare Maître David Otemi-Congo, il existe des principes de défense pour un journaliste poursuivi pour désinformation.
Nous avons premièrement rappelé le principe de la liberté d'expression et le principe de la liberté de presse garantie par l'article 23 de la Constitution, mais cela doit se faire conformément à la loi et dans le respect de l'ordre public.
Les participants trouvent cet atelier enrichissant, à l'instar de Christelle Belimbo, étudiante en sciences de l'information et de la communication à l'université de Kisangani. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale. Les flammes continuent à ravager ce dimanche 27 avril le principal port d'Iran au lendemain d'une explosion dévastatrice dont la cause n'est pas encore connue. Le bilan de cette explosion est d'au moins 28 morts et plus d'un millier de blessés. Elle a aussi causé d'importants dégâts. Au Canada, un automobiliste a foncé dans la foule lors d'un festival de rue philippin hier samedi à Vancouver, dans l'ouest du pays. Le premier ministre canadien, Mark Carney, s'est dit bouleversé. Âgé de 30 ans, le conducteur est un suspect isolé, connu de la police. Les enquêteurs excluent pour l'instant l'acte de terrorisme et annoncent un bilan de 9 morts.
L'invité.
Les écrivains de la province de la Tchopo sont plongés dans la léthargie depuis bien des années et pourtant les talents sont bien présents dans l'univers littéraire local. Selon le point focal de l'Union des écrivains du Congo dans la Tchopo, ils éprouvent plusieurs difficultés pour la publication de leurs œuvres dont les manuscrits moisissent dans les tiroirs. Quelles sont les principales difficultés qu'ils éprouvent et comment redynamiser leurs activités? Pour en parler, nous recevons Madame Marguerite Niki Imayonda, point focal intérimaire de l'Union des écrivains du Congo, section Tchopo. Elle est avec Jacques Mukonkole.
Marguerite Niki, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Jacques.
Quel bilan pouvez-vous dresser des activités littéraires dans cet endroit?
Les bilans comme tel, il est quelque peu mitigé, dans ce sens que les écrivains dans la Tchopo, on les trouve. Les écrivains, ils ont quelques œuvres qui sont encore à l'état de manuscrit. Et les écrivains peinent à pouvoir éditer leurs œuvres pour pouvoir les diffuser, pour que le public ait accès à ça. Et donc, il y a des difficultés, tout ça. Les œuvres sont là. Il y en a d'ailleurs dont les auteurs ne sont plus de ce monde, alors qu'ils espéraient pouvoir éditer leurs œuvres et les mettre à disposition du public. Et donc, la littérature en soi a quelque peu de difficultés au niveau de la province de la Tchopo.
À cause de ces difficultés qu'il n'y a pas assez de production, est-ce qu'il y en a quand même de récentes par rapport à celles qui avaient déjà été publiées, qui se retrouvent même dans l'anthologie?
Oui, l'anthologie c'est depuis 2000, hein. Il y a des œuvres qui sont là, qui attendent d'être publiées. Il y en a même qui ont été éditées tout à fait gratuitement par les relations de quelques écrivains au niveau de l'Europe. Et Eddy Livre, par exemple, a édité pour feu François Bolondo. Ces livres ne peuvent pas arriver ici parce que malheureusement, l'auteur n'a pas la possibilité de payer les frais. On a édité gratuitement pour que les livres arrivent ici.
Et puis, il n'existe plus, vous avez dit qu'il nous a déjà quittés.
Il n'existe plus.
Quelles sont les principales difficultés qu'éprouvent les écrivains congolais de la Tchopo?
Bon, vous savez, hein, depuis les turbulences des années 90 et qui ont été suivies par 30 années de guerre nous imposées justement par le voisin rwandais. En tout cas, les activités culturelles sont plongées dans la léthargie. Oui, parce que d'abord, les structures appropriées pour la promotion et la diffusion des œuvres littéraires n'existent plus. On n'a pas de bibliothèque ici. On n'a pas de maison d'édition. On n'a pas. Et quand on a une maison d'édition, il y a des métiers corollaires pour aider à pouvoir sélectionner des manuscrits qu'il faut, des manuscrits qui sont intéressants pour pouvoir les éditer et mettre à la disposition du public. Donc, il y a cette difficulté-là. Il y a aussi le pouvoir organisateur qui ne s'intéresse pas tellement à la promotion et des écrivains dans notre province. Donc, l'écrivain a des difficultés. Il y a aussi la problématique de la lecture. On dirait que notre population dans la ville dans la province de la Tchopo, en tout cas, et je dirais même dans l'ensemble du pays, néglige un peu la lecture. C'est ça les difficultés que nous avons. Or, l'écrivain qui a un talent naturel doit vivre de son talent. C'est pas pour rien que l'État a pris une loi pour protéger son droit et pour protéger aussi son œuvre. Mais les difficultés, on en a.
Et donc, on peut dire que la morosité de la situation socio-économique serait pour beaucoup.
Oui, oui, c'est pour beaucoup. C'est pour cela d'ailleurs que nous devons réfléchir pour voir dans quelle perspective nous pouvons arriver à faire quelque chose pour que l'écrivain quand même se retrouve, parce qu'il est important dans la société.
Est-ce que des maisons telles que l'Alliance française ou les Paulunes ne peuvent pas être utiles aux écrivains congolais?
Je me rappelle encore du temps du centre culturel français. Il y avait une effervescence des activités culturelles ici, peut-être parce qu'il y avait suffisamment de moyens et on pouvait initier beaucoup d'activités culturelles intéressantes, tous les types d'artistes, tout ça. Mais pour le moment, avec l'Alliance française, je crois qu'il n'y a pas tellement de moyens, mais l'Alliance française est toujours disposée à donner gratuitement, par exemple, la salle aux artistes pour pouvoir se produire, tout ça. Ça, c'est vraiment un avantage que nous avons parce que les directeurs nous a rassuré, vous pouvez venir pour ça. Je mets la salle à votre disposition. Mais le problème de l'écrivain, c'est de voir son œuvre éditée et publiée. C'est ça le problème majeur qu'a l'écrivain dans la province de la Tchopo.
Et que faire pour redynamiser les activités littéraires dans la Tchopo?
Bon, je me dis ceci, que nous devons, l'Union des écrivains congolais en tête de la Tchopo doit aussi solliciter la collaboration des enseignants du primaire et du secondaire, parce que le livre, c'est d'abord la lecture. Quand on n'a pas le goût de la lecture, on ne saura pas accéder au trésor contenu dans les livres. Je crois qu'on doit stimuler le goût de la lecture. Nous devons travailler de commun accord pour initier des activités. Il y en a plein. Initier des activités pour que les jeunes qui grandissent prennent goût à la lecture, pour aussi que les adultes aussi donnent la parole aux écrivains, pour qu'ils parlent de leurs œuvres, pour qu'ils sortent par eux-mêmes les trésors enfouis dans leurs œuvres, pour que le public s'intéresse à eux. Se faire connaître du public, c'est aussi important.
Marguerite Niki Imayonda, merci.
C'est moi qui vous remercie sincèrement.
Notre invité répondait aux questions de Jacques Moukonkolé. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.